de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. L'ambassade d'Indonésie à Bangkok appelle les citoyens indonésiens pour respecter les règles de couvre-feu du gouvernement de la Thaïlande. Le règlement du gouvernement remplaçant la loi sur les élections locales devrait être publié avant la fin de mai 2020. Le gouvernement turc continue de rapatrier ses citoyens de l'étranger. Observateur, l'impact de Corona n'a provoqué que la crise économique à court terme. Le Fonds monétaire international apprécie la politique économique de l'Indonésie pour répondre à COVID-19. L'Inde met en garde contre l'extension de la quarantaine. Et deux personnes sont mortes dans des attaques au couteau en France. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. L'ambassade d'Indonésie à Bangkok appelle les citoyens indonésiens pour respecter les règles de couvre-feu du gouvernement de la Thaïlande. L'ambassade de la République d'Indonésie à Bangkok demande aux citoyens indonésiens en Thaïlande d'obéir les politiques du gouvernement local qui ont imposé un couvre-feu du 3 au 15 avril concernant la propagation du COVID-19. L'appel de l'ambassade d'Indonésie est écrit sur la feuille d'annonce téléchargée sur le compte d'Instagram @indonesian_embassy_bangkok, accessible samedi à Jakarta. Dans cette annonce, l'ambassade d'Indonésie à Bangkok a appelé ses citoyens indonésiens en Thaïlande a prêté attention à un certain nombre de questions liées à l'imposition du couvre-feu, y compris obéir à la politique du gouvernement thaïlandais qui applique un couvre-feu de 22h à 4h du matin du 3 au 15 avril. Les citoyens indonésiens sont également demandés d'être toujours calmes face à la situation et de continuer à suivre l'évolution de l'actualité en Thaïlande et à faire l'anticipation si les conditions et les situations empirent. En outre, l'ambassade d'Indonésie a également appelé à maintenir la santé personnelle et à prévenir les effets du COVID-19 en maintenant la propreté, en portant des masques et en se lavant régulièrement les mains avec du savon ou un désinfectant pour les mains. Le règlement du gouvernement remplaçant la loi sur les élections locales devrait être publié avant la fin de mai 2020. La directrice exécutive de l'Association pour les élections et la démocratie, Perludem, Titi Anggraini à Jakarta, a estimé que le règlement du gouvernement remplaçant la loi pour le report des élections simultanées des chefs de région devrait être publié avant la fin du mois de mai 2020. Selon lui, sans régulation, le règlement du gouvernement remplaçant la loi, l'administration électorale ne peut pas reporter toutes les étapes des élections. Pendant ce temps, les conditions actuelles sont encore dans l'épidémie de COVID-19 et on ne peut pas être sûr quand elle est finie. Perlodem a suggéré que ce règlement ne soit pas fait comme la loi électorale de chefs régionaux qui régit spécifiquement le jour du scrutin, car on ne sait pas quand la pandémie de COVID finira. Il est donc à craindre que des règles spécifiques entraveront réellement la mise en œuvre des élections locales. Le gouvernement turc continue de rapatrier ses citoyens de l'étranger. Le gouvernement turc continue de rapatrier ses citoyens de l'étranger dans le cadre des mesures de protection des citoyens contre le nouveau type de coronavirus ou COVID-19. Cette fois, la Turquie a rapatrié près de 600 de ses citoyens d'Ukraine et du Monténégro. Au total, 103 citoyens, dont la plupart étaient des étudiants ramenés d'Ukraine en Turquie, alors que 479 autres ont été rapatriés du Monténégro. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Melfut Cavusoglu, cité par la page d'Anadolu Agency dimanche 5 avril. Les personnes qui viennent d'arriver en Turquie suivront les procédures de santé du pays. Ils seront surveillés pendant 14 jours. L'impact de Corona n'a provoqué que la crise économique à court terme. L'observateur économique Wahyu Aryo Pratomo a déclaré que la nouvelle épidémie de coronavirus ou COVID-19 a provoqué la crise économique, mais n'a duré que de court terme. Cela a été dit par le professeur à la faculté d'économie de l'université de North Sumatra à Medan samedi. La relance économique rapide après la pandémie de COVID-19, se référant à la conviction que tous les secteurs se déplaceront immédiatement après que le virus ne sera pas de nouveau infesté. Selon lui, à l'heure actuelle, les gens n'osent pas faire d'activité car ils ont peur de contracter le virus. Les activités communautaires sont presque inexistantes parce que le gouvernement, a-t-il dit, met en œuvre une distanciation sociale pour supprimer la propagation du COVID-19. Dans le nord de Sumatra, le ralentissement économique sera clairement visible au deuxième trimestre ou d'avril à juin 2020. Au premier trimestre, bien qu'il y ait un ralentissement, mais pas grand, car l'impact de l'épidémie de COVID-19 n'a été ressenti qu'en mars. Bien que le virus soit devenu une épidémie dans le monde en février 2020. Le Fonds monétaire international apprécie la politique économique de l'Indonésie pour répondre à COVID-19. La directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Kristalina Georgieva, a apprécié la politique du gouvernement indonésien pour faire face aux impacts économiques et sociaux du nouveau type d'épidémie de coronavirus ou COVID-19. La déclaration a été faite par Kristalina lors d'une conférence de presse tenue par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS à la presse à Genève, en Suisse, vendredi 3 avril. Kristalina, comme indiqué dans la déclaration écrite de la mission permanente indonésienne à Genève samedi. Le Fonds monétaire international apprécie la bonne coordination entre la Banque d'Indonésie et le ministère des Finances dans la gestion de la pandémie et la protection par le gouvernement aux micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Selon Kristalina, ces deux politiques auront un impact réel sur le terrain et contribueront également à améliorer la dynamique de l'économie indonésienne lorsque la situation s'améliorera. L'ambassadeur d'Indonésie, représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève, Hassan Kleb, a déclaré en tant que représentant de l'Indonésie à Genève qu'il se félicitait des déclarations positives du directrice générale du FMI sur un certain nombre d'efforts déployés par le gouvernement indonésien pour surmonter les impacts économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19. L'Inde met en garde contre l'extension de la quarantaine. Le nombre de cas d'un nouveau type de coronavirus ou COVID-19 en Asie du Sud a presque atteint 6 000 samedi, alors même que les autorités de plusieurs villes ont resserré les restrictions de circulation et averti que la quarantaine régionale pourrait être prolongée afin de contrôler la pandémie. Le ministre de la Santé de l'État du Maharashtra, qui comprend le centre financier de Mumbai, Rajesh Tope, a déclaré samedi à Reuters. Il a déclaré que la quarantaine pourrait être prolongée à Mumbai et dans les zones urbaines du Maharashtra dans 2 semaines. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré cette semaine que l'Inde avait retiré son plan de quarantaine de 3 semaines par étape. L'Inde est le pays le plus gravement touché par cette maladie en Asie du Sud, avec environ 2902 cas, dont 68 sont décédés. Le Maharashtra a 516 cas confirmés de COVID-19 et 26 personnes sont décédées. Alors que le gouvernement prévoit de revoir la quarantaine de la zone qui prendra fin le 14 avril. La quarantaine et les restrictions seront attendues dans les districts où la propagation des cas de coronavirus se continue. 2 personnes sont mortes dans des attaques au couteau en France. 2 personnes sont mortes et 5 ont été blessées dans une attaque au couteau dans le sud-est de la France samedi 4 avril. On a appelé cet événement comme un incident terroriste. 2 des blessés seraient dans un état critique. Selon des témoins, l'agresseur est entré dans un magasin de tabac de la ville de Romans-sur-Isère, près de Grenoble, et a poignardé le propriétaire et le client. Il est ensuite allé à la boucherie la plus proche et a attaqué plus de gens. Un suspect décrit dans les médias français comme un Soudanais de 33 ans a été arrêté. Selon les procureurs, au moment de son arrestation, l'agresseur a été retrouvé agenouillé sur le trottoir en train de prier en arabe. L'homme est inconnu par la police ou par les services de renseignement. Le motif de l'attaque n'est pas encore clair. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castani, a déclaré que cela dépendrait du bureau de l'Office national de lutte contre le terrorisme pour déterminer si l'assaillant a agi de son propre gré. Dans un communiqué, le parquet a déclaré qu'une enquête initiale avait montré que l'assaillant a un itinéraire de meurtre visant à perturber gravement l'ordre public avec l'intimidation ou terreur. Chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les commentaires d'aujourd'hui, intitulé « Empêcher la propagation de COVID-19 avec des restrictions sociales à grande échelle ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, depuis que la pandémie du coronavirus ou COVID-19 a frappé presque tous les pays du monde, des efforts ont été faits pour ralentir sa propagation. Chaque pays a des politiques différentes pour répondre à l'épidémie de COVID-19. Il y a ceux qui exhortent ses citoyens à mettre en œuvre une distanciation sociale ou physique en gardant leur distance les uns et les autres. Et certains imposent le confinement. On pense que celle-ci peut inhiber la propagation du coronavirus. Et l'Indonésie, récemment, certains partis ont exhorté le gouvernement central à imposer une politique du confinement. Cela est dû au nombre de cas positifs de COVID-19 en Indonésie augmente rapidement. Il semble que le gouvernement central ne soit pas encore disposé à mettre en œuvre le confinement, bien que plusieurs villes d'Indonésie aient imposé une quarantaine régionale ou des fermetures régionales pour fermer l'accès à l'intérieur et à l'extérieur de leur territoire. Le président indonésien Joko Widodo, lors d'une conférence vidéo mardi 31 mars 2020, a exprimé sa préférence pour les restrictions sociales à grande échelle. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, la politique est régie par le règlement gouvernemental numéro 21 de 2020, signé par le président. Le règlement d'application a été publié par le ministère de la Santé dans le règlement du ministre de la Santé de la République d'Indonésie, numéro 9 de 2020, vendredi 3 avril 2020. Les restrictions sociales à grande échelle sont des restrictions à certaines activités des résidents d'une zone suspectée d'être infectée par COVID-19 pour empêcher sa propagation. La restriction sociale à grande échelle est réalisée pendant la plus longue période d'incubation, qui est de 14 jours. S'il existe encore des preuves de la propagation d'un nouveau cas, il peut être prolongé dans les 14 jours depuis la découverte du dernier cas. Le contenu du règlement du ministre de la Santé est en effet plus laxiste que le confinement. Dans les restrictions sociales à grande échelle, bien qu'il y ait l'interdiction et les restrictions sur les activités dans les écoles, les bureaux, les lieux de culte, les lieux publics, les transports en commun, ainsi que les activités socioculturelles, les résidents sont autorisés à quitter la maison pour des raisons importantes. Contrairement à certains pays qui imposent le confinement où les résidents ne sont pas autorisés à rester à l'extérieur de la maison, sauf pour acheter des produits de première nécessité et des médicaments. Certains pays imposent même des amendes et des sanctions pénales aux résidents quittant leur domicile. Les restrictions sociales à grande échelle prises par le gouvernement indonésien sont une mesure appropriée pour accroître la discipline publique et devraient réduire la propagation du coronavirus. En effet, la chose la plus importante est la discipline communautaire pour limiter les activités à l'extérieur de la maison et éviter les endroits bondés et maintenir la santé et la propreté qui est commencée de nous-mêmes. Chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Bonsoir, chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 6 avril. Premièrement, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Au début, les États-Unis ne voulaient pas être impliqués dans la Première Guerre mondiale. Cependant, étant donné que l'Allemagne a coulé 7 navires de commerce américains le 7 mai 1915 et la révélation du télégramme de Zimmermann, à savoir le message allemand au Mexique d'attaquer conjointement les États-Unis, l'Amérique a déclaré la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Les États-Unis ont aidé les Alliés et la guerre a pris fin un an plus tard. Ensuite, la Journée nationale des pêcheurs. Le 6 avril est la Journée nationale des pêcheurs qui a été instituée depuis 1960. La Journée nationale des pêcheurs a été instituée comme une forme de reconnaissance des services fournis par les pêcheurs indonésiens pour répondre aux besoins en protéines et en nutrition de tous les Indonésiens. En outre, les pêcheurs constituent l'un des atouts nationaux pour soutenir l'économie nationale qui nécessite davantage d'attention. Le 6 avril 1994, l'assassinat du président rwandais et du président burundais ont marqué le début du génocide rwandais. Un avion transportant le président rwandais, Juvenal Habyarimana, et le président burundais, Cyprien Ntaryamira, tous les deux de l'ethnie Hutu, ont été abattus par des opposants du groupe militant qui a tué tout le monde à l'intérieur. Cet événement a déclenché un massacre ethnique ou un génocide massif commis par un groupe d'extrémistes Hutu au Rwanda. Quelques heures seulement après l'assassinat du Juvenal Habyarimana, tous les lieux du Rwanda ont été immédiatement bloqués. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kau tak di sana. aku masih di sini untuk setia.
C'était la première chanson pop indonésienne. Et voici donc mon Indonésie. Serge Rita, bonsoir. Voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie exporte des produits de la pêche vers 13 pays. Au milieu d'une situation défavorable due à la pandémie de COVID-19, le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche continue d'encourager la croissance économique par l'exportation de produits de la pêche. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, l'a révélé lors de la libération des exportations de produits de la pêche au port à conteneurs de Koja, au port de Tanjung Priok, au nord de Jakarta, mercredi. Le volume des produits de la pêche exportés était de 3200 tonnes. Les marchés de destination sont 13 pays tels que le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Maurice, Taïwan, la Thaïlande, les États-Unis, le Vietnam et la Lituanie. Edi Prabowo a espéré que la présence du gouvernement pour soutenir la production et l'exportation de produits de la pêche donnerait un signal positif aux entreprises du secteur de la pêche. À cette occasion, Edi Prabowo a également remis des certificats de santé de poisson aux exportateurs de produits de la pêche et a témoigné en chargement des produits d'exportation à bord. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche continuerait de faire des incursions et de simplifier les procédures d'exportation conformément à la politique fiscale et de demander à tous les autres ministères ou les institutions de se coordonner. Par ailleurs, la directrice commerciale de PT Pelabuhan Indonesia ou Pelindo 2, Rima Novianti, qui accompagne le ministre Edi Prabowo, a déclaré que les services d'exportation et importation au port de Tanjung Priok continuer de fonctionner au milieu de restrictions sur les activités publiques. Rima a expliqué que jusqu'à mercredi, le 1er avril, Pelindo appliquait toujours les procédures de vigilance et de prévention de COVID-19 pour protéger tous les agents de terrain. En ce qui concerne la politique de restrictions sociales à grande échelle qui a été décidée mardi le 31 mars, selon Rima, Pelindo 2 a continué de prêter une attention particulière à la direction et à la nouvelle réglementation du gouvernement. Serge Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Bon, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île Selayar en province de Sulawesi Sud. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix d'Indonésie, le service international de RRI, soit sur les écoutes, soit vous pouvez nous écouter sur www.voice.id. Chers auditeurs, Sulawesi a beaucoup de biotes marins et aussi des objets touristiques. L'Ando est l'île Selayar. L'île Selayar est une petite île située dans la résidence de Selayar en province de Sulawesi du Sud avec la capitale Kota Benteng. Pour aller à l'île Selayar, il prend environ 10 heures de Makassar, la capitale de la province de Sulawesi du Sud. Sur l'île de Selayar, vous pouvez aussi voir quelques objets historiques uniques, comme l'ancrée géante sur la plage de Padang. L'ancrée était de grands navires chinois qui ont visité l'île Selayar. Il y a aussi un autre objet historique, à savoir Nekara de la période de bronze. Nekara a une forme comme un gong avec des images de l'étoile, l'éléphant, le cocotier, le poisson, la grenouille, le héron et le paon. Chers auditeurs, sur l'île de Selayar, vous pouvez voir la vie et la culture des gens à la plage de Padang. Ici, vous verrez toutes les activités de pêcheurs à partir de la préparation pour aller à la mer pour attraper des poissons jusqu'à ce que la façon de traiter les produits de la mer. Sur l'île de Selayar, vous pouvez aussi voir une unicité au hameau de Toa Bitombang, le plus ancien hameau sur cette île. L'unicité de ce hameau est les maisons avec le toit en bambou et un grand pilier en bois, de sorte que la maison est au-dessous de la surface du sol avec une distance assez élevée. Parce que la terre n'est pas plate, donc parfois le devant de la maison a un pilier avec une hauteur de 2 à 3 mètres et l'arrière de la maison a un pilier avec une hauteur de 13 à 15 mètres. Chers auditeurs, si vous êtes sur l'île Selayar et vous voulez venir à la plage, l'île Selayar a aussi des plages de sable blanc lisse comme la plage de Pamatata, la plage de Tanaira et la plage de Langsangireng, la plage de Taloya, la plage de Pabadilang, la plage Rampang-Rampang ou la plage Labuang Nipaya. Non seulement la belle plage, l'île Selayar a aussi le beau panorama sous la mer dans le parc national Takabonerat. Au parc, il y a 220 000 hectares de large de l'atoll Kokaliang, qui est le troisième plus grand atoll en Asie du Sud-Est. Chers auditeurs, la beauté de la plage, de la mer, du bâtiment, de la culture, des activités de personnes et diverses unicités de la nature et l'enchantement de l'île Selayar qui est intéressante pour être vue et appréciée. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'île Selayar en province de Sulawesi du Sud ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
tiada hilang. Mencoba bertahan walau asap itu semakin ada. Tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Pour la rubrique suivante, on va aussi donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduire des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « Kapan kamu datang ?» ou en français « Quand es-tu arrivé ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kapan kamu datang ?» ou en langue française, quand es-tu arrivé? Tony se trouve dans le quartier de Temple Prambanan avec son ami Joko. Ils viennent de se rencontrer.
Kapan datang?
Dua hari yang lalu.
Oh, hari Senin.
Iya, hari Senin.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir kapan kamu datang? Kapan kamu datang? En français, quand es-tu arrivé? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Kapan, kapan, en français, quand. Kapan kamu datang? Kapan kamu datang? En français, quand es-tu arrivé? Dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu. En français, il y a deux jours. Hari Senin. Hari Senin. En français, lundi. Pukul sembilan. Pukul sembilan. En français, 9 heures. Tadi malam. Tadi malam. En français, nuit dernière. Kemarin. Kemarin. En français, hier. Minggu lalu. Minggu lalu. En français, semaine dernière. Le mot utilisé pour poser des questions sur le temps en général est kapan. Kapan, en français, quand. Pour demander quand quelqu'un arrive, dites kapan datang. Kapan datang, en français, quand es-tu arrivé? L'autre exemple, kapan kamu datang. Kapan kamu datang, en français, quand es-tu arrivé? Ou kapan Anda datang? Kapan Anda datang? En français, quand êtes-vous arrivé? Pour répondre à cette question, indiquez votre heure d'arrivée, par exemple, pukul 9. Pukul 9. En français, 9 heures. Tadi malam. Tadi malam. En français, nuit dernière. Kemarin. Kemarin. En français, hier. Minggu lalu. Minggu lalu. En français, semaine dernière. Autre exemple. Kapan datang? Kapan datang? En français, quand es-tu arrivé? Kemarin. Kemarin. En français, hier. Kapan kamu datang? Kapan kamu datang? En français, quand es-tu arrivé? Tadi malam. Tadi malam. En français, nuit dernière. Kapan Anda datang? Kapan Anda datang? En français, quand êtes-vous arrivé? Minggu lalu. Minggu lalu. En français, semaine dernière. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kapan datang?
Dua hari yang lalu.
Oh, hari Senin.
Iya, hari Senin.
Chers amis, c'était la rubrique apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Thank you.
cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Ada ruang hatiku, kini kau sentuh.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.